France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un philosophe. Succès médiatique et indépendance de la pensée. C'est possible. C'était possible. Il enseignait aux gens devant qui il parlait, en salle de cours comme à son domicile, il enseignait leur propre conscience. Il s'était inventé, disait-il, une ruse qui consistait à être hegelien et marxiste. D'où quelques inquiétudes. Bref, pour en savoir plus et mieux, il suffit d'écouter tout de suite la seconde partie de l'émission Profil perdu consacrée à François Châtelet. Première diffusion sur France Culture, le 28 janvier 1988.
Alors, qu'est-ce qu'être marxiste ? D'être marxiste, voilà ce que ça veut dire, m'a-t-il dit. Il y a des gens qui souffrent. Je suis d'accord, il y a des gens qui souffrent.
Jean Toussaint de Santy.
Il y a des gens qui souffrent et qui se révoltent. Il y a des gens qui souffrent et qui se révoltent. Ces gens qui souffrent et qui se révoltent, ils acquièrent, pas à pas, avec beaucoup de difficultés, des éléments de conscience de leur situation et des éléments de connaissance des instruments de la révolte, me dit-il. Es-tu d'accord ? Je dis oui, je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça ? Mais alors tu es marxiste, tu n'as pas à t'occuper. Le marxisme, ça n'est pas derrière toi, le marxisme il est devant toi. Tu dois réfléchir sur cette situation-là, réfléchir sur ces gens qui souffrent et tâcher d'élucider autant que tu le peux cela, cette situation. Alors est-ce que tu es toujours non marxiste ? Alors je dis, ben, si c'est cela, oui, je suis marxiste. Alors tu l'es comme moi. Ben oui, je le suis comme toi, en cela. Donc, quelle sorte de marxiste était-il ? Quelle sorte de philosophe était-il ? Les deux problèmes sont absolument liés. La réponse converge toujours vers le même point. C'était quelqu'un qui réfléchissait à la façon dont il pouvait rendre là où il était, là où il agissait, là où il enseignait, là où il connaissait les gens, là où il leur parlait, rendre aux gens leur conscience, la conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent, la conscience de leurs problèmes, et essayer par conséquent par là de les mener à concevoir la forme de communauté, la forme de communion qui leur permettrait éventuellement de résoudre, du moins d'entrer dans la solution qui existe toujours, une lutte de ces problèmes, qui sont des problèmes d'existence. Donc au fond, j'ai l'impression que son point de vue philosophique était fondamentalement éthique. Éthique d'abord, politique ensuite.
Profil perdu, François Châtelet, deuxième partie, une émission de Jacques Munier.
Alors évidemment, il y a une question qui se pose là. C'est de savoir pourquoi, bizarrement, en 1954, alors que rien ne m'y prédispose, j'adhère au Parti communiste français. Un parti communiste qui, d'une certaine manière, n'a jamais été plus stalinien. En fait, à regarder les choses objectivement, cette adhésion au Parti communiste est une aberration. Lorsque j'y réfléchis, parce que précisément, pendant toute la période où j'ai enseigné, où j'ai vécu en Afrique du Nord, 2 ans en Algérie de 48 à 50, 4 ans en Tunisie de 50 à 54, je n'ai cessé de me disputer avec les communistes et à les combattre. Puisqu'entre 48 et 50, je suis lié avec le parti du manifeste algérien de Ferhat Abbas et que je suis tout à fait opposé à la ligne du Parti communiste algérien, enfin, c'était pas le Parti communiste algérien à l'époque, c'était la section algérienne du Parti communiste français, et quand je suis en Tunisie à partir de 1950, je ne cesse d'être en conflit avec les tentatives d'accaparement de ma propre activité par le Parti communiste tunisien. Comment se fait-il qu'en 1950, au début de l'année 55, j'adhère au Parti communiste français? Je crois que c'est que, rentrant d'Afrique du Nord, où j'avais eu une activité militante assez grande, dans la lutte, disons, pour simplifier, anticolonialiste, je me suis trouvé un peu vide de ce point de vue, du point de vue de l'activité militante, je me suis trouvé un peu vide. Et là, j'ai réfléchi à quoi adhérer pour pouvoir militer. J'en ai discuté avec un certain nombre d'amis, et en particulier avec Henri Lefebvre. Mais c'est Henri Lefebvre, au fond, qui m'a convaincu que l'on pouvait entrer au Parti communiste français sans adhérer à la doctrine et à la ligne politique de la direction. Autrement dit, quand je me suis inscrit au Parti communiste français, j'étais opposant. J'étais, d'une certaine manière, encore trotskiste. Et je faisais, d'une certaine manière, de l'entrisme, comme disent les trotskistes, sans le savoir, enfin sans l'avoir délibéré. Et très vite, d'ailleurs, je suis entré dans les groupes oppositionnels à la direction du parti, en luttant contre, en particulier, ce qui me paraissait la chose la plus choquante à l'époque, la plus honteuse, à savoir la politique du Parti communiste français dans la guerre d'Algérie, que je connaissais bien. Enfin, c'était un problème que je connaissais très bien pour y avoir vécu et avoir de nombreux amis qui étaient en train de se battre, soit en France, soit en Algérie, contre le colonialisme. Et je suis resté au Parti communiste, toujours avec cette illusion qu'entretiennent encore beaucoup de camarades, si j'en juge par la situation actuelle, que l'on peut faire changer la direction. Et lorsque j'ai quitté le Parti communiste, c'est que je me suis aperçu que ce n'était pas possible. Alors j'ai fait une nouvelle tentative militante avec le PSU, où j'ai retrouvé les mêmes problèmes miniaturisés, si je peux dire. Et alors là, du coup, ma veine militante s'est éteinte, je crois définitivement, mais hélas, on ne peut jurer de rien. Bon, et puis, bon, il est évident que depuis j'ai beaucoup changé. Je pense aujourd'hui que les partis politiques sont des mimes de l'État et qu'il n'y a aucune chance que l'on puisse les transformer de cette manière.
Olivier Revaud-Allonne.
Après une période trotskisante, François a adhéré au Parti communiste français probablement, je peux me tromper, probablement en 1953. Parce que c'était la seule organisation politique française qui, en tant que telle, en tant qu'organisation politique, luttait contre la sale guerre. C'était la guerre du Vietnam, la guerre franco-vietnamienne. Et moi, d'ailleurs, à une époque où je voyais peu François, parce qu'il était à Paris et moi à Lille, ou il était ailleurs, je ne sais plus où, et moi à Lille, j'ai adhéré au parti également, pour la même raison. Et puis, il s'est trouvé que nous avons quitté le PCF, pour les mêmes raisons, lui et moi aussi, en 56, c'est-à-dire à Budapest. L'intervention de l'armée soviétique contre les travailleurs hongrois, ça nous a paru difficile à avaler, disons pour le moins. Alors ensuite, il y a eu une longue période d'hésitation, certains d'entre nous, dont François, pensaient avec des amis, Denis Berger et d'autres, qu'on pouvait modifier le Parti communiste français. C'est toujours pas fait, mais enfin, on peut le penser. Alors, nous avons milité dans des organisations parallèles, François et moi, à ce moment-là. Lui, je crois que ça s'appelait Voix Nouvelle. Voix Nouvelle au pluriel. Et moi, j'étais dans un petit groupuscule qui s'appelait Tribune du communisme, qui a fusionné dans le PSU. Dans les années... En 61, 60, 61, 62, mon rôle était d'obtenir du PSU, c'était lié à l'appel des 121, qui soutiennent les déserteurs et les insoumis. Et je n'y suis pas parvenu. Enfin, je n'étais pas seul.
Et dans cette période, donc les années, disons, 55-60, quel était son rôle et sa place dans le milieu intellectuel?
Il maintenait la pensée d'un certain marxisme non dogmatique. Il avait lu Marx de très près, il avait fait sa thèse sur Logos et Praxis. Il refusait absolument le côté, matérialisme dialectique, si vous voulez, le diamâtre. Il pensait que c'était le matérialisme historique qui avait son mot à dire, mais que le reste, c'était pas de l'ordre de la rationalité, et que c'était même une épistémologie très fragile, très datée. Mm-hmm. Il était plus marxiste que engelsien, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mm-hmm. Il est resté marxien toute sa vie.
Mm-hmm. André Acoun.
Vous savez, à l'époque, l'intelligentsia de gauche avait une fonction un peu différente de maintenant. Elle n'était pas l'écho de parti. Elle avait son autonomie, elle avait sa créativité. C'était des gens comme Edgar Morin, comme Claude Lefort, comme François Châtelet, comme Serge Mallet, j'en oublie certainement, comme Duvigneau, Sebag, Pividal, moi-même, par certains côtés, on peut dire aussi. Ces gens-là étaient, d'un seul coup, ils sortaient de cette espèce de glaciation qui faisait que la vie politique était centrée sur le Parti communiste, et ça c'est la France entre 45 et 54, et qu'il fallait repenser les choses. Alors, c'était d'un seul coup une espèce de créativité énorme, de redécouverte d'auteurs oubliés, de tous ces néo-marxistes du début du siècle qui avaient été escamotés, de la découverte de Lukács, la découverte de Karl Korsch, etc. Et en même temps, la volonté de réintégrer la cité. Parce que d'une certaine manière, pendant le temps des engagements militants, il y avait quelque chose du ghetto. On vivait dans des contre-sociétés closes. Et c'était la volonté de retrouver la société. Donc, d'écrire dans des journaux, d'écrire dans l'Express, d'écrire dans l'Observateur, d'inventer, de créer arguments, des débats agités. Tout était permis. Tout était possible, tout était permis. Il y a une créativité qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qui était l'idée que il y avait des tas de choses à rattraper. Si je compare cette époque des années 56-60 à l'époque 68, eh bien, je dirais qu'on a été beaucoup plus créatif du point de vue intellectuel. Parce qu'on avait la volonté de, contre les dogmes figés, de faire des recherches, de découvrir. Alors que les 68ards, quand ils étaient militants, ils cherchaient au contraire à redécouvrir les catéchismes. Alors que nous, nous les brisions. Alors que, inversement, ils étaient en 68 terriblement créatifs sur tous les problèmes de quotidienneté, de société, libération des mœurs, etc., qui étaient des questions qui ne nous traversaient pas beaucoup. Je veux dire.
Rencontré assez souvent pendant les événements de mai 68, et j'avais toujours été frappé du fait qu'alors que nous étions baignés tous dans l'illusion lyrique et dans les possibilités de changer le monde de façon arbitraire, rapide et presque totale.
Jean Lacouture.
Moi j'avais une petite ironie méridionale au sujet de cette grande fête collective, mais enfin je marchais grosso modo avec le mouvement, et je me souviens que Châtelet était par
parmi les hommes de gauche non inféodés au Parti communiste, l'un des très rares qui nous rappelait à l'ordre de la raison, si l'on peut dire. Et il nous disait à diverses reprises, je me souviens encore un soir dans une réunion aux éditions du Seuil, tout cela est trop marqué par l'irrationnel, n'est-ce pas ? La raison se venge toujours. J'avais été vraiment frappé de cette formule parce que c'était visiblement un homme qui, par le cœur, était avec ce mouvement. L'opposition que faisait au mouvement un homme comme Raymond Aron était d'une autre nature. Elle était vraiment du sarcasme et de l'opposition radicale, tandis que celle de Châtelet était une sorte de mélancolie critique à ne pas pouvoir accompagner le mouvement. C'était très émouvant. J'aimais cela. Il y avait un fond de chez lui d'humanité très forte et en même temps la rébellion de la raison contre ce qui était irrationnel. J'ai trouvé que c'était une vraie leçon, encore une fois, d'homme libre, parce que il n'était pas facile de lutter contre les structures comme celle ou de son parti ou de la pression sociale. Mais là, il y avait mieux qu'une pression partisane ou sociale, il y avait une sorte de pression du cœur global, n'est-ce pas ? Ce mouvement avait un charme tel qu'on y était englobé, entraîné, et lui savait résister à cela, n'est-ce pas ? C'est le vrai courage intellectuel, c'est ce qui m'avait frappé.
Les manifestants fuient maintenant de la place Edmond-Rostand. Ils sont
Pourquoi ai-je commencé à cesser d'être égalo-marxiste ? Eh bien, je crois que il faut que je me réfère encore à mon expérience d'enseignant pour le comprendre. Il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était pour moi la voie de la facilité. Que ça me permettait de résoudre trop facilement les problèmes. D'abord parce que l'hégélianisme comme tel fournit une clé à toutes les questions qui se posent. Et que je me suis rendu compte qu'avec l'instrument hégélien, et en particulier avec cette fameuse dialectique, on pouvait faire face à toutes les difficultés. Et l'inquiétude est née de là. De plus, je me suis rendu compte que sans le vouloir, j'avais pratiqué une ruse qui consistait à être précisément hégélien et marxiste, c'est-à-dire à pouvoir jouer constamment d'un registre ou de l'autre. C'est de là que c'est venu, mon inquiétude. Ça a été une inquiétude sourde, cette espèce de facilité que j'avais à résoudre toute difficulté se présentant à moi. Cela, je m'en suis aussi rendu compte en écrivant. Par exemple, lorsque j'ai écrit le Platon, je me suis rendu compte que j'avais élu, comme Platon le faisait lui-même, la puissance souveraine du logos, de la raison discursive, et que je ne m'étais jamais interrogé sur la raison de la puissance de cette raison. Je l'ai d'ailleurs consigné dès 1965 dans une petite phrase qui est tout à fait à la fin du livre. L'énigme, c'est le mystère de la force de la raison.
Collège international de philosophie, amphithéâtre Poincaré, hommage à François Châtelet, Gilles Deleuze.
Il y a d'abord chez Châtelet, de toutes les manières, une fascination pour la puissance. L'homme est puissance, c'est-à-dire il est matière. Et dans la chronique des idées perdues, il y a un passage, très beau passage, où il nous dit « le pouvoir politique ne m'attire nullement. Le contre-pouvoir, l'anti-pouvoir, sont à mes yeux des pièges. Ce qui m'intéresse, c'est la puissance. ce qui fait que le pouvoir est pouvoir. Or, la puissance est, à strictement parler, tout un chacun. J'ai plaisir à exercer ma puissance, à faire ce que je peux. Entendez bien, pas ce que je veux, à faire ce que je peux. Pour comprendre et dévoiler les mécanismes de captation de puissance qui constituent le pouvoir. Peut-être pour entretenir mon goût de la puissance, pour tenir en moi celle-ci vive et éveillée, réveiller cette puissance autour de moi, puissance, cela s'est dit aussi liberté.
De même, lorsque j'ai écrit ce petit livre sur Hegel, je m'étais proposé, et je l'avais d'ailleurs noté dans mon introduction, de découvrir les lacunes et les redondances du système hegelien. Lorsque j'ai eu terminé la rédaction de mon texte, je me suis relu et je me suis aperçu qu'il n'y avait, dans l'exposé que je faisais de l'hégélianisme, aucune lacune et aucune redondance. Que j'étais entré dans le système hegelien et que je n'en étais pas sorti. Que je n'avais rien repéré comme faille ou comme faillite de ce système. Et je dois dire que cette perfection m'a fait peur. Pour le marxisme, c'était la même chose, et même alors pour le marxisme, l'expérience a été d'un autre ordre. C'est que le marxisme a subi un devenir que je ne pouvais pas éluder. Même lorsque je me réclamais avec véhémence du marxisme, je critiquais avec la plus grande vigueur des Logos et Praxis, qui est un livre que j'ai écrit en 1957, je critiquais avec vigueur le jdanovisme et sa version française, qui était à l'époque le garaudisme, philosophie officielle du Parti communiste français. Et malgré tout, il a bien fallu que je remarque que le jdanovisme, la doctrine officielle de l'Union soviétique du temps de Staline, était en relation avec Marx lui-même, que la filiation n'était pas tout à fait contingente entre les écrits de Marx et les prescriptions impératives, dogmatiques de Jdanov. Alors du coup, je suis revenu au texte de Marx et je me suis aperçu qu'il y avait dans l'œuvre de Marx cette couche qu'on appelle philosophie de l'histoire qui était à l'origine non seulement du jdanovisme, mais aussi d'un certain prophétisme marxiste, que j'avais pu repérer par ailleurs dans le militantisme et que j'avais critiqué en tant que militant.
Il n'était pas dans le confort de la pensée, voyez-vous, c'est ça. Il n'avait pas ce qu'on appelle une pensée de système, une pensée qui collerait pour tout le monde. Non, il avait une pensée vivante. D'ailleurs, il s'est souvent remis en question. Et c'est ça, moi, qui me plaisait chez lui. C'était le fait de pouvoir rencontrer un être humain. Il avait une volonté de... Je crois qu'il avait une volonté de tout vivre, à mon avis. C'est quelqu'un qui voulait tout vivre. Il voulait pas... il voulait tout assumer. C'est un adulte, quand même.
Pour revenir un peu à sa vocation de pédagogue, d'enseignant, il a su, avec beaucoup de bonheur, utiliser les médias.
Oui. Moi, je ne vous cache pas mon sentiment que quelquefois, il les utilisait avec trop de bonheur. Nous en avons discuté à plusieurs reprises. Ça l'obligeait à envoyer un article de 3 feuillets, alors qu'il en aurait fallu 40. Mais si vous envoyez 3 feuillets à l'Observateur, ils peuvent les publier. Si vous en envoyez 40, ils ne les passent pas. Vous voyez, oui, il passait à la télé, il passait... D'ailleurs, après sa mort, on a redonné des extraits qui étaient très, très pénibles, pour ceux qui l'ont bien connu. Oui, mais ça, c'est dans la foulée. Si vous voulez, quand on lui posait une question, il répondait clairement. Ben, ça, c'est une grande qualité que tout le monde n'a pas, et qui, pour les médias, est fondamentale. je suis sûr qu'il avait comme justification qu'il n'y a pas de pensée qui ne puisse être communiquée. Ce qui ne peut pas être communiqué, ce n'est pas une pensée. Ça, c'était... Finalement, c'est ça. Il était... Je ne dirais pas qu'il était enseignant ou professeur dans l'âme, il était communicant dans l'âme.
Actualité 13h, le 31 décembre 67, Jean-Pierre Elkabbach.
Monsieur François Châtelet, quel fait retiendrez-vous de cette année 1967?
Bien, d'abord, un fait qui dure, à savoir la permanence de ce que j'appellerais, dans un cliché, l'agressivité américaine. Le fait, comme le notait Marc Ferraud à l'instant, que les États-Unis d'Amérique sont présents dans le monde entier et poursuivent une politique... de présence, d'agressivité même, à tous les niveaux. Mais ça, ce n'est pas spécifique, je crois, de 1967. C'est une politique qui dure. Il y a un autre événement qui m'a frappé et sur lequel peut-être on pourrait discuter. C'est la dévaluation de la livre, d'une part. D'autre part, la montée du chômage dans les pays d'Europe occidentale, en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale et secondairement en France. Le fait que la dévaluation de la livre et cette montée du chômage ouvre peut-être sur les perspectives, non pas d'une crise économique, mais de difficultés économiques majeures. Et ici, je parlerai, disons, brièvement en philosophe. Les philosophes, qui sont des amants de la rationalité, ont accueilli un certain nombre de thèses qui ont été développées au cours de ces dernières années sur l'intégration de la société tout entière à un schéma rationnel et à une excellente organisation, de telle sorte que l'opinion publique et même les intellectuels ont été amenés à jeter par-dessus bord un certain nombre de problèmes, par exemple, le problème des crises économiques. Or, les événements de 1967 nous montrent que l'éventualité d'une crise économique, d'une crise économique mondiale, n'est pas exclue, que des concepts que nous avions rejetés complètement réapparaissent maintenant, réaffleurent, et qu'ils vont peut-être nous obliger à repenser l'ensemble de ces problèmes. L'intégration de la société industrielle n'est pas aussi simple qu'on le pensait.
L'année 1967 n'a apporté aucun règlement à des problèmes comme ceux du Moyen-Orient ou ceux de l'Extrême-Orient. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent vers un règlement pacifique, disons, au Vietnam, M. Châtelet?
Oh non, je crains au contraire une aggravation. Il est certain, par exemple, que la campagne présidentielle aux États-Unis, sur laquelle on avait fondé certains espoirs, va au contraire être l'occasion de manœuvres comme celle que le président Johnson et le vice-président des États-Unis sont en train de développer actuellement avec la visite au Vatican et la prolongation de la trêve. Il va s'agir de manœuvres destinées à influencer l'opinion publique américaine pour essayer de glaner quelques voix ça et là, et je crois rien de plus. Non, peut-être s'il y a, je parle de la situation française, s'il y a un espoir de déblocage du côté de la jeunesse. Je signalerais peut-être ceci, que signalait très bien, que disait très bien Marc Ferraud tout à l'heure, à savoir la fascination qu'exerce sur la jeunesse française, et pas seulement dans les milieux intellectuels, le modèle chinois d'une part, et d'autre part, ce qui se passe dans les pays révolutionnaires, enfin les pays du tiers-monde, enfin les révolutionnaires qui agissent dans les pays du tiers-monde. Je me demande si cela, conjugué avec la situation française qui risque sur le plan économique et social de s'aggraver un peu, ne va pas provoquer une repolitisation d'un autre ordre et peut-être plus efficace que celle à laquelle nous assistions.
José Arthur.
Bah oui, à cette époque-là, j'avais des missions qui faisaient 3h, 3h30, donc je pouvais même 4h à un moment. Et puis en plus, c'était un merveilleux causeur. Mais il est venu un jour, je me souviens, pour les chats vaguement, mais je me souviens même plus quoi. Il défendait, où il y avait eu des animaux torturés dans les laboratoires. Enfin, moi, à l'époque, chaque fois qu'il y avait un Indien traqué à Manhattan, ouais, c'est mon côté, c'était mon côté Simone Signoret, comme elle me disait. Dès qu'il y avait un cas social, on l'épousait, bon, c'est vrai. Et François aussi venait dès qu'il avait quelque chose à défendre. Il venait pas parler de lui, il venait parler des autres souvent. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que la vieille phrase, enfin la phrase célèbre que tout le monde a repris, dont Henri l'a accaparée, c'est il abandonnait son œuvre quelque temps pour intervenir dans la cité. C'est très bien dit, mais c'est vrai que les gens, enfin dignes de ce nom, le font. Il y a des comédiens, je sais pas, des gens comme Piccoli ou des gens comme ça qui le font. C'est-à-dire qu'ils arrêtent. Simone Signoret, je reprends l'exemple, était l'incarnation de ça. C'est-à-dire des gens qui ne se contentent pas d'avoir leur réussite, leur tour d'ivoire, et qui prennent le temps de s'occuper des autres. Quand il me parlait, j'avais l'impression de tout comprendre. Et que certains, par exemple, Mono, je pigeais pas grand-chose et je pensais que mes auditeurs allaient pas piger. Tandis qu'avec François Châtelet, il était capable d'abandonner 2 minutes intelligemment le sujet qu'il était venu défendre pour nous dire « qu'est-ce que c'est le disque qui vient de passer ?» Donc, ça sur les mômes, qu'à l'époque vous étiez, c'était extraordinaire parce que, en plus, il apprivoisait merveilleusement. Parce qu'il avait une sorte de chaleur. À table, il mangeait, il buvait. Il était un être vivant. Et en plus, il nous faisait cadeau de ce qu'il savait sans pédanterie.
Très gentil aussi, très bon. Je pense que c'était profondément humain, si vous voulez, au sens fragilité du terme. Vous savez, tout ce que l'humain peut véhiculer de fragile, et puis de, malgré tout ce savoir qu'on peut avoir sur les choses, et puis tout cet inconnu qui est devant nous, tout ça.
En 68, il est rentré à Vincennes. Foucault l'a rencontré, il était dans l'équipe qui devait former Vincennes. Il lui a proposé et Châtelet a accepté. Et il s'est retrouvé avec Foucault, avec ensuite Deleuze qui est venu. Ils ont formé la matrice de Vincennes avec tout un ensemble d'utopies. Il voulait à la fois que ça soit le lieu autogestionnaire et révolutionnaire en diable et en même temps, comme si ça pouvait aller ensemble, une espèce de Harvard de la philosophie, les deux à la fois. Il pensait que ça allait être à la fois le top niveau intellectuel et le top niveau autogestionnaire, libéral, libertaire, créatif, etc. Moi, je continue à penser qu'il a dû être un peu déçu pendant un temps des ivresses idéologiques. En tout cas, ce qu'il écrivait à Vincennes, avant Vincennes ou après Vincennes, ou les cours qu'il faisait, n'étaient pas du tout marqués par la démagogie ou quoi que ce soit. Son cours, c'était Platon, c'était Aristote, et on ne fait pas beaucoup de démagogie avec Platon et Aristote, ou Marx, et ses écrits étaient de même nature.
La création de Paris 8 et l'université de
Christian Descamps,
de Vincennes, François m'a demandé d'y collaborer, j'ai été donc intégré au département de philosophie, qui était un endroit assez excitant, je dirais pour un jeune enseignant comme moi, puisqu'on y rencontrait, on côtoyait des enseignants qui, me semble-t-il, étaient des gens sont encore des gens assez remarquables, des gens comme Foucault, bon, donc comme François, quelqu'un comme Scherrer, quelqu'un comme Deleuze, quelqu'un comme Lyotard, c'est-à-dire que les professeurs de cette université étaient des gens qui avaient choisi de venir à Vincennes, enfin dans cet endroit, dans ces préfabriqués à côté du zoo, qui sont d'ailleurs détruits aujourd'hui, mais où il y avait une effervescence extraordinaire, je dirais un goût et un appétit pour les idées qui recoupaient des disputes politiques, c'était donc quelques années après 68. Et puis il y avait des populations estudiantines extraordinairement diverses et bariolées, c'est-à-dire des gens qui avaient des cursus bizarres, qui étaient revenus, qui, par exemple il y avait beaucoup d'adultes, enfin il y avait des gens qui reprenaient les études plus tard, il y avait des gens qui venaient là avec une vraie curiosité, enfin au sens philosophique du terme, avec des parcours très étranges. C'est-à-dire, c'était pas simplement des étudiants qui sortaient du bac, c'était des gens qui avaient eu, qui venaient, bon, d'horizons très différents. Alors, avec parfois un folklore absolu, hein, c'est-à-dire qu'il y avait parfois les cours, ils obtenaient en partie du happening ou en partie du théâtre. Mais je dirais que les enseignants qui pratiquaient la philosophie dans cette université ont su avoir l'humour suffisant pour parler tout de même de philosophie. Et je citais ces noms tout à l'heure qui sont, je crois, des philosophes, ceux de philosophes importants. Et pratiquer une philosophie en s'intégrant à cette effervescence extraordinaire. Et je crois que, de ce point de vue, enfin, l'université de Vincennes, a joué un rôle capital dans la culture contemporaine. Enfin, je citais ces quelques noms, c'est les plus connus, mais je crois qu'on pourrait en citer aussi quelques autres. Et là, il y a eu, je crois, enfin, un vrai désir d'apprendre. Enfin, il y avait un petit ouvrage qu'on avait écrit collectivement quelques années après pour défendre l'université de Vincennes. Et je crois qu'il y a eu là, de la philosophie au meilleur sens du terme, quelquefois liée avec des pratiques théoriques pour parler le langage de l'époque. Je pense par exemple au travail de Foucault, qui s'est articulé au moment où il travaillait sur surveiller et punir, qui s'est articulé à des activités comme celle du GIP, enfin à des groupes sur les prisons. Et je crois que cela se faisait sans, je dirais, sans démagogie.
Comme pédagogue, comment vous le définiriez ?
Il avait cette capacité de signaler les difficultés et de donner aux gens qu'il fréquentait envie d'y aller voir de plus près. Il prenait des textes d'Aristote, il prenait des textes de Platon, des textes difficiles. Enfin, c'était l'un des bons connaisseurs de Platon, peut-être l'un des meilleurs connaisseurs de Platon en France. Il disait, le Parménide est un texte vraiment difficile. Il y a peut-être 10 personnes en France qui sont capables de lire totalement le Parménide, parce que ça supposerait de connaître l'épistémologie de l'époque, donc de savoir lire de façon très précise, enfin, les allusions mathématiques que fait Platon. Châtelet disait, ça, c'est difficile. Mais c'est précisément parce que c'est difficile que ça peut être intéressant. Et je me souviens, enfin, d'un cours qu'on avait fait ensemble et qu'on avait beaucoup préparé, enfin, sur Aristote, en prenant la métaphysique. Il disait, la métaphysique, finalement, on doit pouvoir le lire à condition de décaper un peu toutes ces couches thomistes. Et je le voyais s'illuminer dès qu'il disait « Oh, ça c'est compliqué, oh là là, ça on en reparlera la semaine prochaine. » Et là, il devenait un grand gamin guilleret, tout content. Et ça, je crois qu'il le faisait passer vraiment dans les groupes, enfin dans les gens. Alors, y compris dans le folklore absolu qu'a pu avoir à certains moments l'université de Vincennes. Parce que il faut dire qu'il y avait à la fois des gens qui venaient du Collège de France et puis des espèces de babacools qui venaient de Katmandou. Enfin, il y avait tout ça à Vincennes.
C'était une des grandes passions de sa vie. C'était sa manière d'être philosophe. C'était précisément d'enseigner.
Evelyne Pizier.
Enfin, c'était une de ses manières préférées. Alors, il aimait l'enseignement, il aimait les autres, il aimait les étudiants. Je crois qu'une de ses manières d'être, c'était très frappant, c'est que s'il était capable d'aimer les autres, c'est précisément parce qu'il était capable de s'aimer lui. Il aimait parler et d'ailleurs, il aimait sa propre voix. Il aimait ses gestes lorsqu'il parlait, il était volontiers content de lui. Et il savait aussi que cette parole, c'était non pas une parole de mépris ou une parole d'écrasement, il ne s'agissait pas d'un discours extérieur pour les autres, mais il s'agissait en parlant de faire advenir la parole des étudiants, de faire venir l'intelligence. Et pour François, qui croyait dans la raison, comme il croyait d'ailleurs dans la critique nécessaire de cette raison et de ses excès, François, qui croyait dans la raison, croyait précisément que la raison vient quand on parle. Et donc il parlait et il faisait parler ses étudiants. Je crois que c'était véritablement ce qui caractérisait son enseignement.
C'était une espèce de maïeutique en acte.
Exactement, c'était vraiment une manière d'être et un exemple. Et je crois que cela révélait tout à fait l'homme qu'il était et cela révélait ses convictions. Je peux dire par exemple que certains ont retenu peut-être qu'il était par exemple infiniment courtois avec ses étudiants, qu'il lui arrivait de tutoyer ses étudiants et que, comme tous les enseignants après 68 ou comme beaucoup d'enseignants après 68, et que pourtant chez lui ce tutoiement n'a jamais été grossier ou démagogique, que c'était véritablement une manière d'aider l'étudiant à vaincre sa timidité, à reconnaître sa personnalité, à se faire distinguer et reconnaître, de manière précisément à pouvoir parler. Et François était vraiment très 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 particulièrement courtois avec ses étudiants et même avec l'ensemble des personnels qui travaillaient dans l'université. C'était assez particulier et assez fort pour que chacun les notait.
Est-ce qu'il suffit, est-ce que la politesse suffit à vaincre le désespoir du monde ? Hélas, non, pour une raison simple, c'est que pour être poli, il faut être deux et qu'il y a dans le monde de moins en moins de gens polis. C'était la douloureuse certitude de Châtelet. Et puis il y a un troisième aspect du pathos. Et que Châtelet présentait bien, là aussi tous ceux qui l'ont approché le savent, mais tous ceux qui le lisent le sentent. C'est une très profonde et très réelle bienveillance. Une bienveillance qui était le fond même de son cœur. Et pourquoi une bienveillance? Je crois qu'elle est rattachée au plus profond de sa pensée philosophique. C'est que, vous savez, le peu que nous venons de dire peut-être suffit à faire sentir que... Mais un processus de rationalisation, il dépend tellement de la période, du groupe, de la personne même qui le tente, qu'on ne peut pas en préjuger, on ne peut pas dire d'avance. De quel droit je jugerai les gens? Qu'est-ce qui me fait dire que ce que je crois être une passion stupide chez quelqu'un ne fait pas partie d'un processus de réalisation, de rationalisation qu'il instaure sur lui-même ou d'un rapport humain qu'il est en train de tisser avec soi-même? Comment procède quelqu'un pour sortir de ses démolitions à lui une fois dit que chacun de nous naît sur un sol de démolition? Qui peut préjuger des bifurcations d'un processus de rationalisation tel que l'individu le tend sur lui-même ou tel qu'un groupe le tend sur lui-même?
Eh bien, je crois qu'on ne peut le poser qu'en termes...
C'est ça la bienveillance.
Et plus précisément,
ce qui revient à dire quoi?
C'est le premier point.
C'est peut-être
le deuxième point,
ou un des centres de la pensée de Charles.
C'est qu'étant donné le lieu empirique où nous sommes, on ne peut poser cette question de la culture que dans la perspective de l'enseignement, ou plus généralement de la formation, la Bildung. Bref, le concept de culture ne peut se dessiner aujourd'hui que polémiquement à partir des modalités d'enseignement de plus en plus clairement projetées par l'État savant. Alors ici, si vous le voulez, je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que j'essaie de ramasser un peu ce que nous avons rencontré un peu dans toute l'année, hein, concernant les modalités de l'enseignement.
En septembre 71, je suis allé assurer une permanence dans l'université où j'enseigne, à Paris 8, Vincennes, et j'ai rencontré une étudiante qui avait déjà passé l'année précédente à Vincennes, dans les couloirs. Et alors elle m'a dit, avec ce ton charmant de Vincennes, « Alors, dis donc, François, qu'est-ce que tu fais cette année ?» Alors je lui dis, bah, écoute, j'ai réfléchi cet été, j'ai envie de vous parler du premier livre de la métaphysique d'Aristote. Alors, ça se passait dans un escalier, cette rencontre. J'étais un peu en contrebas, elle était un peu au-dessus de moi. Elle m'a regardé avec un air de commisération. Et elle m'a dit, Aristote, Descartes, Kant, tous des flics.
Le quartier de la rue des Martyrs, de la rue Clauzel, c'est un petit village, tout le monde se connaît, hein. C'est exactement comme à la campagne. Hein. S'il y en a un qui a fait quelque chose, tout le monde le sait. On vit comme dans un village, hein. Ça peut être à Paris, c'est un village. Monsieur Châtelet, il était connu partout. Hein. Toutes les après-midi, il sortait 1h30, 2h, il faisait son petit tour, il allait dire bonjour aux commerçants. Quand il venait au magasin, il avait toujours une petite blague à vous raconter ou alors une histoire. Il faisait ses courses, bon, il portait pas les paquets parce qu'il avait du mal à porter les paquets, mais les paquets lui étaient livrés quelques heures après, mais il aimait bien faire ses petites courses, aller chercher son pain, aller chercher son fromage, aller chercher la viande. Bon, il venait jamais la chercher parce qu'on lui livrait toujours, mais il venait choisir ses morceaux et puis on préparait ça, on lui portait. Il adorait faire un pot-au-feu. Quand je lui faisais un pot-au-feu, par exemple, je lui mettais 4 ou 5 morceaux. D'abord, sans oublier un morceau de queue de bœuf, des os à moelle primordiales, et puis bon, un petit morceau de jarret, un petit morceau de jarret de veau, un petit morceau de jarret de bœuf, un petit morceau de pâte côte, et tous ces légumes qui allaient avec. Sans oublier le persil, parce que ça, le persil, il aimait. Hein. Il aimait bien cuisiner, hein. Il fallait jamais rien oublier. Ouais, il y avait des os à un canard un jour, des os à un canard, le fameux canard. Des os à un canard entier, on l'avait entièrement désossé, hein. pas un reste rien en os, on avait reconstitué les pattes, la tête et tout. Il me dit comment je vais faire, mais je dis Monsieur Châtelet, là c'est facile, vous me démontez tout comme un jeu de cartes. La tête est démontable, les pattes sont démontables, tout était démontable. Et ça lui avait plu, ça fait une belle présentation.
C'était un homme qui était grand avec une chevelure blanche, grisonnante, et qui avait un superbe sourire. tous les commerçants le connaissaient dans le quartier, comme on connaît Noël Châtelet. Et à chaque fois, tout le monde avait toujours un gracieux sourire à lui offrir et lui nous répondait bien volontiers la même chose. Mais c'était un homme extraordinaire, comme sa femme. Je crois qu'ils se ressemblent tous les deux beaucoup. Il venait lui-même ou il me téléphonait quand il était souffrant. Il me téléphonait pour envoyer des fleurs, notamment à son épouse. C'était un homme qui était très, très sympathique, qui n'était pas prétentieux pour deux sous. On ne pouvait pas savoir que c'était un homme supérieurement intelligent comme il l'était, parce qu'il était très humble et il se mettait à la portée de tout le monde. Et ça, c'est la supériorité de l'intelligence, je crois. Beaucoup d'humour, beaucoup de gentillesse, plein de choses adorables, et ce sont des clients que j'aime beaucoup.
Il vous a demandé de composer des bouquets ?
Les bouquets, à part les fleurs blanches qu'il aimait particulièrement, lui aussi très certainement, c'est souvent des fleurs toujours unicolores, toujours de même ton, ou tout blanc, ou tout rouge, mais jamais des fleurs mélangées.
C'est quelqu'un qui était, qui avait beaucoup de dynamique comme ça. Il était très présent aussi dans les choses, dans ce qu'il faisait. Il ne s'attendrissait pas sur lui-même. À mon avis, c'est quelqu'un de très très sensible. Je pense que quelque part, ça devait être quelqu'un de très sensible, très humain. Mais je ne crois pas qu'il ne s'arrêtait pas sur lui. Je n'ai pas l'impression. Non. J'aime bien d'ailleurs... j'aimais bien quand il me passait les commandes. Je fais des fruits et légumes, je vends des fruits et légumes. Alors il me téléphonait, puis il me disait « François Châtelet à l'appareil ». Il a une voix très spéciale, monsieur Châtelet. Il a une voix... Enfin, toutes les voix sont uniques, bien sûr. Mais dans sa voix, il y avait... il y avait quelque chose du passé. C'est-à-dire qu'il y avait toujours du passé qui lui permettait d'être très présent et d'être très pénétrant dans le présent, voyez-vous. Je pense que c'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui n'était pas désabusé. Ce qui est très étonnant, voyez-vous, avec les gens, et surtout quand ils sont attachants, c'est qu'ils vivent en vous quand ils sont morts, en réalité, quand ils meurent. C'est-à-dire que... Ou alors c'est l'absence qui nous rappelle qu'ils étaient là. Et ça, c'est quand même quelque chose de très curieux dans l'existence des hommes, à mon avis.
Non, il était très chaleureux, il était heureux de vivre. Même à la fin de sa vie, quand il avait cette affreuse maladie, enfin la nécessité de se ramonner les voies respiratoires plusieurs fois par jour. Les dernières années, quand il se levait de son fauteuil, il lui fallait 5 à 10 minutes pour reprendre son souffle, rien que ça. Mais même à ce moment-là, il aimait la vie.
Surtout, ce qu'il y a de plus bouleversant, sans aucun doute, ce sont ces étudiants de la dernière année, c'est-à-dire ceux qui se rendaient chez François Châtelet pour les séminaires, parce que François ne pouvait plus se déplacer, et que donc on avait décidé de lui maintenir ses derniers séminaires, mais de les organiser chez lui. Alors les étudiants allaient chez lui, et ils avaient à la fois énormément de respect pour son courage, mais ils étaient en même temps très, très stupéfait de constater à quel point il restait gai et heureux d'enseigner. Et le fait d'enseigner chez lui, c'était un bonheur, parce que ça lui permettait précisément de continuer à enseigner alors qu'il ne pouvait plus se déplacer. Et d'ailleurs, autre chose à noter, très personnelle et tout à fait étonnante, alors qu'il souffrait beaucoup, beaucoup d'essoufflement, il a continué à enseigner sans jamais être essoufflé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'alors qu'il avait du mal à se déplacer, car se déplacer de quelques mètres, soulever une chaise, les derniers mois étaient un effort épouvantable. Mais en revanche, parler de Platon, de Hegel, commencer son cours, et là, tout d'un coup, il reprenait souffle et sa voix devenait tout à fait normale. Ça, c'était très, très formidable.
J'avais déjà connu François à Vincennes. Donc, pour moi, c'était quelqu'un que je connaissais déjà.
Loreto Vargas.
Et j'avais été aussi chez lui avant. Donc, pour moi, c'était plutôt un cours plus intime. Après, on a su que tout était bouleversé chez lui pour nous recevoir. Mais au début, il était très à l'aise, toujours, comme d'habitude. Il n'y avait pas une ambiance sacrale. C'était très à l'aise. Il faisait un cours sur l'histoire des idées et sur la méthodologie de travail. Comment travailler en philosophie. Il était à ce point-là très hegelien. Il disait qu'il fallait comprendre comment les choses devaient être connues.
Vous étiez combien d'étudiants?
Une quinzaine. À la fin de sa vie, d'après ce qu'on a su par Noël, son épouse, c'est qu'il attendait beaucoup la fin de la semaine, le vendredi après-midi, pour nous recevoir, parce que c'était son contact avec le monde extérieur, parce qu'il ne pouvait plus se déplacer, vraiment. Et à la fin de sa vie, et son dernier cours, il l'avait fait vraiment au bout du souffle. C'était vraiment extraordinaire. Comment il a fait ce cours-là de 2 heures sans interruption. Noël nous avait dit qu'il avait mis 1h30 pour aller de sa chaise jusqu'à la table de travail où elle avait l'habitude de nous recevoir.
Est-ce que...
Il a fait un cours sublime de 2 heures sans interruption. Oui, il nous parlait toujours de la contingence, que l'histoire est contingente. Et que le combat pour la liberté était une tâche infinie, qu'il fallait toujours lutter, qu'il fallait toujours être combatif, que rien n'était acquis, qu'il n'y avait pas de savoir total des choses, qu'il fallait toujours avancer vers d'autres connaissances et ne pas s'arrêter quand on pensait qu'on avait tout connu, quoi. Qu'il y avait toujours des choses à connaître.
Qu'est-ce qu'il vous a appris de plus précieux?
Pour moi, c'était la rigueur, la justesse des synthèses qu'il avait et l'intelligibilité. Comment il rendait les choses intelligibles. Ça, c'était pour moi le plus important. Et à la fin de ses cours, il nous avait souhaité beaucoup de volupté et beaucoup d'intelligibilité dans nos travaux respectifs. François Châtelet était un très grand séducteur.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Qu'il avait un charme fou et qu'il savait vous conduire vers des chemins inattendus.
C'est drôle parce que c'est quelqu'un qui me donne l'impression qu'il était étonné par la vie, si vous voulez, la vie en elle-même, en dehors de toutes les pensées, tout ce qu'on peut mettre dessus. Alors, mes dernières impressions, elles seraient plutôt liées à ça, si vous voulez, en arrière-fond, à la vie.
Il aimait la vie, il continuait à vivre. Il employait l'expression « gérer sa maladie ». J'arrive à gérer ma maladie. À la fin, tout à fait, à la fin, il a dit à Noël, je n'arrive plus à gérer ma maladie. Il a très bien compris que c'était la fin, hein, oui. Oui, d'ailleurs, à la dernière grande alerte, Noël a demandé au médecin combien de temps lui reste-t-il à vivre, et le médecin a dit entre 24 heures et 4 ans. Et il a survécu 3 ans et 9 mois. Donc, je veux dire, médicalement, il était fatal. Ça ne pouvait pas durer plus. Mais il est arrivé presque au bout, par volonté. Il m'a dit une fois que, lors de sa première réanimation, il est resté des 50 jours, je crois, en réanimation à Foch, avec des appareils. Il y avait un appareil qui respirait pour lui derrière. Enfin, il écrivait, il ne pouvait pas parler. Il avait un tuyau d'oxygène. Et il m'a dit qu'il avait failli débrayer. Et puis il s'était dit, non, c'est trop bête, Antoine. Je veux voir grandir Antoine, le fils. Et il s'est accroché aussi pour Antoine et pour Noël.
Le 23 août 1985, à André Akoun. Cher André, merci pour ta lettre. Elle a ravivé des sentiments que j'ai vécus fort intensément ces derniers temps. J'ai été à nouveau très durement secoué par ma saloperie de maladie et du coup affecté aussi bien physiquement que moralement. L'idée que tu évoques, la stupéfaction, est exactement celle qui m'habite. Je suis stupéfait d'avoir 60 ans, de devoir penser comme à une probabilité relativement proche à ma mort. Stupéfait que toute cette affaire, la vie, dit-on, ce fut si court, si fugace, si peu réel. Stupéfait, ni triste ni indigné. Et comme toi, bizarrement co-présent à toute mon existence.
C'était Profil perdu, François Châtelet, seconde partie, par Jacques Munier. Avec la participation de Jean Toussaint de Santi, Olivier Revaud-Dallonne, André Akoun, Jean Lacouture, Gilles Deleuze, José Arthur, Christian Descamps, Evelyne Pizier, Monsieur Hamelin, Madame Flamand, Lucien Marchal, Loreto Vargas et la voix de François Châtelet. Texte lu par François Chaumette. Mixage Monique Pratt. Réalisation Arlette Dave.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 janvier 1988.